vous aspirez à vivre dans un monde où il y a des super-héros ou des super-princesses avec des super-pouvoirs qui mettent toujours les méchants en prison et qui ne meurent jamais. Je ne sais pas si vous, les adultes, vous aspirez à autre chose que la réalité, à un changement un peu comme les gilets jaunes. Est-ce que vous aimeriez que le changement, ça soit maintenant? Tous les présidents potentiels, tous les responsables politiques nous le promettent. Mais je crois foncièrement qu'aucun Français ne croit aux promesses faites par les candidats et aux futurs candidats. Pourquoi? Pourtant, à chaque fois, les Français ont envie d'y croire. Ils ont envie d'imaginer que quelque chose va changer. Ils ont envie d'espérer. C'est pour cela que nous nous passionnons pour les campagnes présidentielles. Le Français a envie qu'on lui parle à son cœur. Il a envie qu'on le fasse rêver. Même s'il n'y croit pas de la tête, son cœur a envie d'y croire. C'est un peu comme lorsqu'on regarde un film ou une série, on préfère regarder les choses qui se terminent bien. On n'a pas envie de revivre la réalité du jour. Même certains adultes, comme moi, aiment regarder des contes de fées. Alors, au lieu de vous raconter l'histoire de Noël, comme on a déjà bien entendu, je vais vous faire une surprise. J'espère que vous n'allez pas être trop choqués. Je vais d'abord vous raconter une autre histoire. Je vais vous raconter un ancien conte de fées. Acceptez de me suivre jusqu'au bout. Parce que les contes de fées nous guident vers une histoire, l'histoire de Noël. Parce que les contes de fées nous racontent les désirs de notre cœur. Et l'histoire de Noël répond aux désirs de nos cœurs. Alors, il était une fois une princesse qui vivait à côté d'une méchante reine, sa belle-mère. La reine mère était jalouse de sa belle-fille, car elle était très belle. Alors elle le faisait nettoyer les toilettes et elle le faisait habiller de habits ringards et pourris. La reine possédait un miroir magique et ce miroir, chaque jour, lui disait « Mais qui est la plus belle ?» Et elle aimait entendre que c'était elle la plus belle. Mais un jour terrible, le miroir lui répond « Mais non, ce n'est plus toi la plus belle, c'est ta belle-fille » Au même moment, la princesse, tout en travaillant, est aperçue par un prince qui lui chante son amour. La reine est terriblement en colère. Elle ordonne à son fidèle chasseur d'emmener cette princesse dans les bois et de la tuer, et de lui ramener son cœur. Le chasseur ne peut évidemment pas la tuer, il lui ordonne « Pars, ne reviens pas !» Et il trompe la princesse en lui donnant un cœur d'une biche. Dans sa fuite, la princesse se retrouve perdue et inquiète dans la forêt. Des animaux se rapprochent d'elle, la conduisent à une petite maison au fond d'une clairière. Les habitants y sont absents, ce sont de petits nains. Et cette princesse lui nettoie la maison et en espérant que on va la laisser vivre avec eux. Pendant ce temps, Blanche-Neige, la princesse, est fatiguée et elle s'assoit. À leur retour, les 7 petits nains s'aperçoivent que la maison est occupée et qu'il y a un intrus. Ils sont inquiets, mais après ils l'acceptent joyeusement. Le même jour, la reine redemande encore et encore à son miroir si elle est toujours la plus belle. Et le miroir lui dit « Non, tu n'es toujours pas la plus belle. Il en reste une qui est encore en vie, c'est ta belle-fille. » Très en colère, la reine mère décide de prendre une potion magique et de se transformer en une vieille femme. Elle décide d'aller offrir une pomme empoisonnée, qui la plongera dans un sommeil de mort, qui ne pourra être brisé que par le bisou d'un prince charmant. Le lendemain, la princesse ne se méfie pas de cette vieille dame et méchante sorcière qui lui offre une pomme magique, ayant le pouvoir d'exaucer son vœu. Elle croque dedans et tombe sans vie. Avertie par les animaux, la vieille s'enfuit, elle est poursuivie par les nains. Un éclair frappe la falaise et tue la méchante sorcière. Hélas, il est trop tard. pour la princesse qui est ensorcelée dans un sommeil de mort. Les sept nains se refusent à enterrer son corps et la placent dans un cercueil de verre où ils viennent se recueillir semaine après semaine. Cependant, le prince qui a cherché longtemps son amoureuse découvre que la jeune fille qu'il aimait était là. La pensant morte, il lui donne un baiser qui rend dès lors le charme. Et la princesse se lève. Les animaux et les sept nains dansent de joie. Le prince la place derrière son cheval blanc et l'amène vers un château. Et l'ultime page du livre se termine en disant « Ils vécurent heureux, éternellement. » J'aurais pu vous raconter la Belle et la Bête, la Belle au bois dormant, le roi lion, la reine des neiges. Pourquoi sommes-nous tous enchantés par ces histoires? Pourquoi sommes-nous réjouis que le bien triomphe? Pourquoi sommes-nous étonnés qu'aucun enfant ne pose la question « Pourquoi le miroir parle ?» Pourquoi le miroir? Pourquoi une pomme magique peut être créée? Pourquoi? Pourquoi fait-on-nous toujours que la fin soit heureuse et que l'histoire se termine bien? Parce que ces textes répondent à un besoin de notre cœur humain auquel la réalité ne répond pas. Les réalités que ces histoires nous racontent, nous parlent d'une autre histoire. Elle parle de notre histoire. Ce qui a profondément ancré dans notre cœur le bien et le mal. Le désir d'expérimenter quelque chose qui nous dépasse. Le désir d'échapper à la mort. Le désir de connaître un amour éternel. Le désir de ne pas vieillir, mais de vivre assez longtemps pour assouvir ses rêves. De communiquer avec des créatures qui ne sont pas humaines. Et de triompher du mal. Pourquoi tous ces contes suscitent des émotions en nous? Ces histoires nous font du bien car nous voulons y croire. Même si nous savons que ces faits n'ont jamais existé, qu'ils ne correspondent pas à la réalité, ils correspondent à ce que nos cœurs recherchent. Une histoire bien racontée nous permet de nous satisfaire momentanément là où ça fait mal, où ça nous gratte. En écoutant ces histoires, nous sommes émus. Car au fond de notre cœur, nous croyons, ou bien voudrions croire que ces histoires sont vraies et que la mort ne devrait pas être la fin. Que nous ne devrions pas disparaître et voir disparaître ce que nous aimons. Nos cœurs nous disent que même si ces histoires ne peuvent pas être vraies, les réalités qu'elles parlent évoquent bien ce qui correspond à nos vies. Notre tête nous dit bien que c'est impossible de céder à nos émotions, à ces histoires fantastiques. Et que ça serait une forme de lâcheté. Vous vous demandez bien pourquoi je vous raconte tout cela aujourd'hui. Mais voilà la grande surprise. L'histoire de Noël répond au désir de nos cœurs. Parce que Noël ressemble à tous ces contes. Car à Noël, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est l'histoire d'un jeune prince, un jeune héros venu d'un pays lointain, à la recherche de son trésor perdu. C'est l'histoire d'amour d'un prince vaillant qui abandonne son palais, tout pour porter secours à celle qu'il aime. Ce prince qui arrive dans le nôtre comme un bébé fragile, mais avec des pouvoirs surnaturels, il calme la tempête, il soigne les malades, il ramène les morts à la vie. Puis il a été attaqué, il a été mis à mort. Et il semble que tout espoir a été perdu, mais il ressuscite et il sauve l'humanité. Cette histoire est comme le plus merveilleux des contes de fées devenu réalité. On peut voir d'ailleurs le récit Noël un peu comme tous ces contes de fées. Mais on l'a lu tout à l'heure. L'évangile de Luc et Luc nous refuse à cette interprétation. À voir la naissance juste comme un conte, une histoire merveilleuse comme les autres. En plaçant Jésus dans l'histoire, et non dans un « il était une fois », Luc veut montrer que la venue de Jésus, Dieu fait homme, fait faire bien dans notre histoire, dans notre temps, dans notre monde. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, Luc était un médecin et qui a fait un travail d'historien a décidé de composer un récit de ce qui s'est passé parmi eux, et notamment de ceux qui ont vu la naissance de Jésus, de ceux qui ont été au contact de sa vie sur la terre. Et Luc a pris soin de s'informer précisément de tout ce qui s'est passé et de l'écrire pour que nous reconnaissions que ce qu'il écrit est la vérité, entièrement en relation avec la vérité. Il n'y a pas de vérité sans réalité. Il n'y a pas de foi en Jésus sans vérité historique de Jésus. C'est ce que Luc nous dit. C'est la différence avec l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure. La naissance de Jésus n'est pas un conte, une histoire inventée. Ce n'est pas une belle histoire. Mais c'est cela sans doute ce que je souhaite vous dire. C'est parce que l'histoire de Jésus est vraie et qu'elle correspond profondément à l'aspiration de notre cœur. Quelle est la réalité que tous les autres récits nous racontent. Les contes ne sont pas vrais, on le sait bien, mais ils s'appuient sur l'histoire de Jésus pour nous faire part de la réalité que notre monde ne croit plus intellectuellement. Jésus est bien descendu de ce monde éternel que nous percevons, dont nous percevons l'existence. Je me rappellerai toujours de cette dame que j'ai rencontrée dans un marché qui m'a dit qu'elle ne connaissait pas Dieu et qui, au bout de 5 minutes avec mon épouse, un quart d'heure, elle m'a dit qu'elle croyait aux esprits et qu'elle voulait bien prier que Jésus puisse l'en délivrer. Nous percevons bien dans notre réalité un monde éternel et surnaturel. Mais à Noël, Dieu a ouvert aussi un passage entre les choses idéales et notre monde triste. Le parfait qui existait en Dieu, tout ce que nous rêvons de vivre, ce qui est décrit en Genèse 1 et 2 comme un récit historique, au tout début de la Bible, Jésus est venu pour nous ouvrir un passage vers les choses merveilleuses, un monde idéal avec Dieu. Mais Jésus a aussi ouvert un pont entre l'éternel et le temporel. Nous sommes mortels, nous allons tous mourir, nous savons que c'est la réalité et nous allons tous être confrontés à celle-ci. Vous comprenez cela sans doute, si vous avez perdu un être cher, que la mort fait, c'est terrible. Et moi je me rappellerai longtemps de ce jour déchirant où, avec mes enfants, on a assisté à l'enterrement de mon cousin, petit cousin, Alexandre, mort d'une malformation. La mort n'est pas normale. La mort ne devrait pas arriver. Elle ne devrait être qu'un sommeil qu'un prince un jour nous réveille. Nous sommes faits pour l'éternité. Nous ne sommes pas faits pour durer juste un temps. Jésus, en venant dans notre monde, lui, le Dieu éternel, est venu dans notre temps pour que nous partagions aussi son éternité. Il est venu pour nous montrer que l'éternité n'est pas un rêve, mais bien puisse être une réalité. Vous voulez vivre pour toujours? Regardez à Jésus. Lui a montré que c'était possible, même par-delà la mort. Mais il est venu aussi dans notre monde. En venant à notre rencontre, Dieu n'est pas resté lointain. Et je sais pas, je me rappellerai toujours quand mon père était sur un marché de Toulon où il rencontre un Sénégalais et qui voulait lui vendre des produits et il lui pose la question, qu'est-ce que tu veux? Et mon père, il lui répond dans sa langue, en Wolof. Oh! Ébloui! Quelqu'un connaît sa culture. Quelqu'un qui est étranger à son pays, qui est loin, le connaît. Un étranger lui parle à son cœur. La vente des produits ne l'intéressait plus. Toutes les religions nous invitent à faire des efforts pour monter à Dieu, mais à Noël, c'est Dieu qui est venu vers nous. C'est Dieu qui s'est fait en tout point ce que nous sommes. Il s'est fait bébé, il s'est fait enfant, ado, jeune, puis adulte. Il n'a rien vécu que nous n'avons pas vécu. Mais derrière cette venue se cache malheureusement un mal terrible. Derrière se cache un sorcier maléfique. Et pour cela, il suffit de comprendre que le nom de Jésus, il vient de l'hébreu. Et vous savez ce que ça veut dire? Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Mais de quoi peut-il nous sauver? Tous les contes savent qu'il y a un mal qui ronge tous les êtres humains. Ce sorcier maléfique nous a ensorcelés, mais le noble prince Jésus est venu pour nous en délivrer. Mais ce noble prince est venu nous montrer un amour éternel pour nous qui existe. Mais malheureusement, il y a un mais. En tant que chrétien, il n'est pas facile de dire à nos enfants, « Ah, j'aimerais qu'ils nous posent cette question. J'aimerais qu'il y ait un noble prince pour nous sauver du dragon ou que Superman existe. Je voudrais pouvoir voler. » Et il suffit pas de répondre, « Oui, ça existe, tu verras plus tard. » Comme dans l'histoire de Hook ou la revanche du capitaine Crochet, Peter Pan adulte est atteint d'amnésie. Il a oublié. Il a tout oublié. Il a oublié le moindre souvenir de ce pays imaginaire, ni de son enfance. Il est devenu un homme rationnel pour qui l'histoire de Peter Pan n'est qu'un conte pour enfants. Il est en train d'écouter attentivement les histoires que Wendy raconte à ses enfants et elle le regarde. Elle le regarde à un moment donné et lui dit, « Mais tu sais, Peter, ces histoires sont vraies. » Si Noël s'est effectivement produit, alors tous les hommes et les femmes sont atteints d'amnésie. Ils ont oublié ce qui s'est passé un jour en Galilée, il y a plus de 2000 ans, et que nous souhaitons nous rappeler aujourd'hui. Voilà la surprise de Noël. Laissons-nous guider par les contes qui nous montrent l'aspiration de notre cœur et nous conduisent vers Noël, cette histoire qui satisfait nos cœurs. Comme Marie en Luc 1, 37, même si cette venue semble incroyable, acceptons de confesser avec elle et avec l'ange Gabriel, avec Luc, que rien n'est impossible à Dieu. Comme l'a écrit James Packer, Dieu s'est fait homme, le Fils de Dieu est devenu juif, le Tout-Puissant est apparu sur la terre comme un bébé sans défense qui ne savait que dormir dans son berceau, ouvrir de grands yeux, s'agiter et pleurer, qui avait besoin d'être nourri, changé et entouré d'affection comme n'importe quel enfant. L'enfant du Fils de Dieu fut inscrit dans la réalité. Plus on y réfléchit, plus tout cela nous semble stupéfiant. La vérité de la venue de Dieu parmi nous dépasse le plus fantastique des contes de fées. Je vous invite à prier. Père éternel, on est reconnaissant que tu ne nous sois pas resté lointain, mais au contraire, tu es venu parmi nous. Nous savons impossible d'aller vers toi. Tu es venu parmi nous pour nous sauver, pour nous donner cette aspiration que nos cœurs désirent de vivre pour toujours avec toi et que nos têtes refusent. Nous sommes reconnaissants de cette œuvre magistrale, étonnante, incroyable que tu accomplis pour nous, Seigneur. Amen.